Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous, c'est le thème de la Journée internationale de la paix célébrée hier. Cette édition intervient alors que le Mali est en plein processus de mise en œuvre de l'accord d'Alger pour parvenir à une paix durable. Quel est le bilan de la mise en œuvre de l'accord de paix? Quelle est la solution pour parvenir à une paix au Mali? Nos invités, Sbeiti Ag Akado de la société civile, Ibrahima Ikassa Maïga, juriste, et Ali Tunkara, sociologue. Je suis Mouhamadou Touré.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, la paix au Mali, quelle est la solution? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités, Sbeiti Ag Akado, qui est de la société civile, Ibrahima Ikassa Maïga, juriste, et Ali Tunkara, qui est sociologue. Monsieur Maïga, aujourd'hui, quand vous entendez le thème « Ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous », qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça me suscite de l'espoir, puisque nous en avons besoin au Mali d'espérer pour parvenir à cette paix. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, okay, issu du processus d'Alger. C'est un processus difficile. Et je pense que nous sommes passés par toutes les écoles au Mali par rapport à cette démarche vers la paix. Une phase de négociation très difficile, très tendue, avec beaucoup d'atermoiements, un accord signé en deux séquences. Ensuite, un plan de mise en œuvre permanemment en retard. Donc, nous, normalement, au vu de l'accord même, nous aurions fini aujourd'hui de mettre en place tous les instruments pour aller vers la paix, pour atteindre cette paix. Mais nous sommes presque au point de départ. Maintenant, il y a eu des avancées. Les parties protagonistes dans cette crise-là ont pu jauger chacune leurs forces et leurs faiblesses et leurs limites, y compris l'État malien. Et donc aujourd'hui, nous sommes résolus, je crois, à aller vers cette paix. Mais il faut le faire dans la bonne foi, ce qui manque beaucoup. À l'occasion de la Journée internationale pour la paix, c'est la communauté internationale qui est interpellée. Elle qui assiste le Mali dans la mise en œuvre, c'est elle qui est interpellée à plus d'un titre. Nous avons vu passer une résolution qui brandit des sanctions pour ceux qui empêchent le processus d'avancer. Nous estimons que ça peut aboutir à une solution véritable vers cette paix, mais nous attendons encore.
D'accord. Monsieur Tunkara, Monsieur Maïga vient de le dire, il manque une bonne volonté au niveau des acteurs. Alors aujourd'hui, ensemble pour la paix, sécurité pour tous, est-ce que c'est possible?
Oui, c'est possible à condition de ne pas nier l'évident, à condition de s'attaquer déjà aux causes de l'insécurité et au pourquoi de l'instabilité. Moi, je trouve que dans le contexte malien qui nous concerne ici, le retour à une paix, le retour à une vie normale, tout cela exige qu'on ait déjà, si vous voulez, une vie d'ensemble sur ce qui se passe dans ces différentes localités concernées par la question de paix, par la question même de l'existence humaine. On ne peut pas parler de la dignité humaine dans des localités où les fondamentaux ne sont pas respectés. Prenez les régions dites nord, le centre du Mali. Vous avez un gros souci déjà avec la pyramide sociale. Comment allons-nous aboutir à une paix durable dans des localités où les humains sont hiérarchisés? Certains sont exclus de la gestion des ressources naturelles. D'aucuns assistent justement. Une infime partie décide à la place d'un nombre important de populations. Vous voyez, dans le même temps, vous avez aussi un État central qui peinent à gommer les spécificités, ce sont les partis culturels qui doivent justement s'accommoder à l'institutionnel et non l'inverse. Mais dans ces différentes localités, vous allez vous rendre compte que c'est la hiérarchie locale, c'est la chefferie locale, c'est l'imama, c'est toute cette pyramide sociale qui prime sur l'institutionnel. Donc l'État est finalement très défaillant quant au remplissage de ses fonctions régaliennes, notamment l'accès à l'eau potable, notamment l'accès à une justice équitable, notamment aussi l'éducation quand même qui reste extrêmement problématique dans ces différentes localités, y compris le centre du Mali. Donc vous conviendrez aisément que parler de la paix sans s'attaquer aux racines qui ont justement conduit à une recrudescence de l'insécurité, c'est quand même, moi je trouve que on est plutôt dans la rhétorique et non dans les faits.
Sbeïté Agakado, votre point de vue sur cette situation d'insécurité que vit le pays?
Merci de m'avoir donné la parole par rapport à la situation que vit mon pays depuis plusieurs années. Nous, de la société civile, nous sommes de ceux qui pensent qu'un problème, dès qu'il est mal posé, il est très difficile de lui trouver une solution. La situation d'insécurité, quelque part, si c'est par rapport à cette question que vous m'interpellez, je dirais que la situation d'insécurité que nous connaissons a été quelque part fabriquée, a été soutenue et entretenue. Parce que dès l'instant que dans un accord ou dans n'importe quelle discussion, on accepte qu'une partie des enfants d'un pays ont le droit de garder des armes et discuter avec l'État central, alors là, c'est pour perpétuer l'insécurité, parce qu'ils comprendront que c'est tout simplement parce qu'ils ont leurs armes qu'ils seront entendus, qu'ils seront écoutés, qu'ils obtiendront ce qu'ils ont envie de faire. Donc, quelque part, vous voyez bien que des groupes armés du Nord, on est passé à d'autres groupes, n'est-ce pas, dans le centre du pays, et d'autres groupes sont en passe de naître, tout simplement, parce que tout le monde est en train de comprendre que seul le langage des armes est entendu par l'État et par la communauté internationale. Et malheureusement, nous sommes installés dans cette logique-là et je ne vois pas comment les gens sont en train de s'agiter pour penser qu'ils peuvent atteindre la paix en privilégiant, sinon en acceptant que des citoyens gardent leurs armes pour discuter avec, n'est-ce pas, un État central. Ce n'est pas facile.
D'accord.
Alors c'est un autre point de vue au niveau de la société civile. C'est pourquoi nous avons envie de dire qu'il faut d'abord reconnaître que le problème est mal parti. Et quand on reconnaît qu'on est mal parti, on a le courage de revenir, n'est-ce pas, pour faire un départ plus acceptable par l'ensemble des Maliens. Malheureusement, on est en train de s'entêter à penser qu'il y a une réconciliation à faire entre qui et qui. Voilà.
Donc vous pensez qu'on n'est pas sur la bonne voie pour parvenir à une paix?
On n'est pas sur la bonne voie, loin de là. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis juste analyste. Je fais des constats, et les constats le montrent. On est en train d'applaudir. On est en train d'applaudir tout récemment les rencontres entre plateforme et SEMA, qui sont en train de signer des accords, de cesser le feu, tout se passe comme si l'ensemble des régions du Nord se résume à la plateforme et à la SEMA.
Justement, monsieur Akado, écoutons une réaction de la SEMA par rapport à cet engagement.
Ce document, si vous voulez, ne garantit pas tout. C'est-à-dire il permet aux parties de cesser les hostilités et de travailler sur des mesures de confiance. Aujourd'hui, les uns et les autres ont compris qu'on est forcé d'aller vers une paix définitive. Et on n'a plus le temps de s'affronter. Il y a eu toutes sortes de choses désagréables. Et je crois qu'on a le droit de croire à la bonne foi des parties, qui est la garantie principale en réalité. Cette commission, elle est composée des grands responsables de ces coordinations, c'est-à-dire de la CMA et de la plateforme. Donc c'est les premiers responsables. Elle n'est pas faite au hasard. Il y a des chefs traditionnels, certains. Certainement, il y aura toutes les sensibilités capables d'avoir une influence, si vous voulez, sur les partis pour les amener à dissiper tout ce qui existe entre eux et aller vers une réconciliation définitive. Il y a aussi, je crois, quelque chose de très important ces derniers temps, le régime des sanctions qui a été voté. Apparemment, ça va dissuader des partis qui vont vouloir violer encore des engagements de ce genre.
Écoutons maintenant la réaction de la plateforme.
Le principal point qui satisfait la plateforme dans ses engagements, ce n'est pas un point particulier, mais c'est le principe de ne plus s'affronter, c'est le principe de faire la paix entre nous. C'est ce qui me satisfait le plus. En ce qui concerne la CEMA et la plateforme, en dehors de l'accord qui n'a pas pris en charge un grand nombre de différends ou de malentendus entre les composantes de ces deux entités, celui-ci est le seul qui a l'appui de la communauté internationale. C'est l'idée de paix qui est la seule victoire là-dedans. Je ne vois pas quelqu'un qui retourne chez lui et peut dire que c'est une victoire. En réalité, le processus, tout est un échec entre nous. On n'a pas pu s'entendre, on n'a pas pu cohabiter comme on devrait le faire. C'est comme ça que je le vois. Je pense que ça va apporter beaucoup dans l'avenir de ces engagements.
Et maintenant, la réaction du gouvernement.
Nous sommes heureux au sein du gouvernement que cette rencontre ait eu lieu entre CEMA et plateforme et qu'elle soit couronnée par un accord. Nous en sommes heureux parce que le gouvernement du Mali est très particulièrement engagé pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, puisque le gouvernement est là pour les populations. Et Dieu sait que les populations du nord du Mali ont attendu trop longtemps qu'une solution soit trouvée à la crise. C'est aussi la responsabilité des groupes signataires que la situation change, parce que l'existence de chacun est justifiée, encore une fois, par les devoirs que les uns et les autres considèrent avoir envers les populations. Depuis le 20 juin 2015, nous n'arrivons à rien faire pour les populations. Cela ne marche pas et donc c'est notre devoir à nous tous.
Alors, Tunkara, cet engagement qui vise une cessation définitive des hostilités entre CEMA et plateforme, est-ce une avancée?
Aucunement, à mon avis, parce qu'à entendre les trois parties, notamment la partie gouvernementale, la CEMA et la plateforme, s'il y a un dénominateur commun, les trois parties s'accordent à dire qu'effectivement, elles se sont entendues sur tout sauf sur l'essentiel. Exactement, c'est que les différents propos témoignent à suffisant. Alors, il est quand même scandaleux dans un État souverain que le retour à la paix soit subordonné à des ententes de partis qui, il y a quelques mois, évoluaient sous la coupole des terroristes. Lesquels partis ont eu à spolier, lesquels partis ont eu à piller ces mêmes populations dites des régions nord ou du centre du Mali. Je crois qu'il est extrêmement important qu'au Mali, qu'on comprenne une chose. Aucun État sérieux ne peut, si vous voulez, traiter ou sous-traiter sa sécurité. La sécurité des populations et leurs biens incombe à l'État central, non à la plateforme et non plus à la CEMA. C'est que les gens, tout le monde le sait d'ailleurs, mais personne n'ose le dire. On parle de la plateforme qui serait pro-Bamako. La CEMA, elle est pro-qui? On le sait notamment également, elle est pro-Paris. Et donc moi je pense qu'il est quand même extrêmement important qu'on comprenne que...
Pro-Paris, pro-la France?
Et clairement, parce que quand on dit pro-Bamako, donc naturellement, pro-Paris, pro-la France, la CEMA, et il est extrêmement important qu'on comprenne que ces différents acteurs de la CEMA et de la plateforme sont plutôt soucieux de leur propre promotion que le retour d'une paix durable. Cette question de la crise du Nord, elle est devenue une sorte de business aujourd'hui. Plateforme CEMA et d'autres groupes aussi émergent. C'est vrai qu'il reste des groupes marginaux, mais il n'y a pas que ces deux mouvements qui sont sur le front. Vous avez beaucoup de groupuscules également qui veulent aussi s'arracher la plus belle part. Donc c'est pour vous dire tout simplement que ce n'est ni à la CEMA ni à la plateforme que les populations peuvent espérer pour le retour d'une paix durable. Il est extrêmement important que l'État revienne sur ses fonctions régaliennes. Et donc, l'État ne peut aucunement, justement, sous-traiter. D'ailleurs, son retour, si vous suivez un peu l'actualité, vous allez vous rendre compte que pour que l'État puisse même se rendre dans certaines localités, il est même obligé de passer par ce mouvement armé. Et lesquels mouvements armés, on le sait pertinemment. Il y a deux années de cela, c'était les mouvements qualifiés de terroristes. Donc au moment, le paradoxe, il est quand même total. Comment un État sûrier, il est quand même extrêmement important qu'on aille rapidement vers une armée forte, vers un État
central. Quand vous dites que les partis se sont entendus sur tout sauf l'essentiel. Okay. Qu'est-ce qui est l'essentiel?
L'essentiel, c'est de dire que la sécurité, elle n'est pas une affaire marginale. La sécurité relève des fonctions qualifiées de régaliennes. Donc ce n'est pas à la plateforme ni à la CEMA qu'on peut justement se permettre, mais c'est quand même honteux pour un État central, si vous voulez, de lier la protection de ses citoyens à des accords aussi fallacieux, lesquels accords sont presque biaisés. À entendre les partis, on comprend heureusement que ce sont des jeux des intérêts qui priment et non l'intérêt de la nation.
D'accord. Donc vous pensez que c'est une guerre entre Paris et Bamako?
Naturellement. D'ailleurs, pour finir rapidement, j'ai échangé avec un des leaders de la CMA. Il me disait que la solution se trouverait entre les mains des trois acteurs. Le premier, Yara Gali. Le deuxième acteur, justement, Amadou Koufa. Et le troisième acteur, justement, la France. C'est pour vous dire qu'à combien on a beau échanger, on a beau discuter, si les vrais acteurs sont à la touche, qui sont Yada Gali, qui sont Hamad Nkoufa et d'autres Katiba, ce sont ces vrais acteurs qui sont plus influents dans les localités concernées par l'insécurité.
Sbeiti, partagez-vous l'avis de Tunkara quand il pense que c'est une guerre entre Paris et Bamako?
Moi, je ne vois même pas la place de Bamako dans cette histoire-là, parce que pour nous, Bamako n'existe pas. Pour nous, l'État a totalement failli, n'est-ce pas, à sa mission de discuter des questions qui intéressent la vie de la nation. L'État, pour nous, est aux ordres, tout simplement. Donc, il n'y a pas forcément de tiraillement entre l'État du Mali et Paris. C'est Paris qui impose, c'est Paris qui imprime la voie à suivre. Au-delà de Paris, il y a bien sûr d'autres acteurs tels que l'Algérie. Mais dans tous les cas, nous, notre constat est que l'État est devenu plus faible que les groupes armés qui, quelque part, ne sont que très peu représentatifs, n'est-ce pas, des communautés minoritaires même qu'ils représentent dans le Nord, encore moins des autres communautés majoritaires du Nord. Donc l'État qui se met dans une position de troisième parti face à deux partis est déjà un État qui n'existe pas, qui ne peut pas défendre l'intérêt de la majorité des Maliens. Donc,
mais qu'est-ce que la France a gagné dans cette situation?
Mais la France a gagné ce qu'elle a gagné quand elle a entamé la colonisation de l'Afrique. La France, elle a sacrifié des hommes, elle a sacrifié des intérêts pour venir coloniser, pour venir nous acculturer, pour venir, n'est-ce pas, nous dominer. C'est la suite logique, n'est-ce pas, de la colonisation française qui continue. La France gagne En ayant en face d'elle un État divisé, un État morcelé, et de chaque morceau, elle va tirer profit, tout comme elle est en train d'en tirer profit, n'est-ce pas, de façon officielle ou officieuse. Tout le monde sait que la France est en train d'exploiter quelque chose dans le nord du Mali, là-bas, sans se préoccuper, n'est-ce pas, du Mali ou des réactions des Maliens. Ça, c'est des intérêts qu'elle gagne. Et au-delà de cela, elle va gagner autre chose. N'est-ce pas, même dans le sud, plus on est assujetti aux ordres de la France, plus elle va nous exploiter. Ça, c'est constant. Donc, encore une fois, la France, ce qu'elle gagne, n'est caché pour personne. La France est en train de nous vendre ses services de sécurité. La France est en train de nous vendre les services de ses entreprises. Et c'est tout cela, n'est-ce pas, les intérêts de la France.
D'accord, donc, monsieur Maïga.
On n'est vraiment pas étonné de voir que c'est la France qui tire les ficelles et dans ce jeu-là, l'État du Mali ne compte pas.
D'accord. Oui, pensez-vous que la France soutient la CMA?
Merci Sbeiti pour, je pense, ces clarifications. Et je pense, nous comptons sur la bonne foi des partis, mais les faits sont têtus. En fait, c'est cela, toute la problématique de cette crise malienne. C'est vrai, si on est un peu dans la théorie du complot, on se dit ça, on peut se dire que ça a été monté de toutes pièces, cette affaire, parce que aucun des acteurs ne se comporte comme il se doit. L'État malien ne se comporte pas comme un État. Les groupes armés se comportent réellement comme des États, des entités étatiques véritablement. Et la communauté internationale, avec la France, se comporte aussi comme si ils étaient là pour superviser une situation sans vouloir prendre parti, alors que c'est l'État malien, en tant que membre des Nations Unies, qui a fait appel à cette communauté internationale, qui a fait appel à la France pour l'assister dans la résolution de cette crise. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que l'État malien ne semble pas véritablement remplir son rôle, ne recherche même pas cette paix. Il faut l'y pousser. Et je pense que c'est la communauté nationale malienne, la société civile à la tête, qui doit pouvoir l'y amener. Peut-être l'opposition politique. Je pense qu'une certaine lutte a été faite dans ce sens-là. Moi, je vois, là, M. Tunkara l'a dit, on ne peut pas sous-traiter sa sécurité. Sur qui comptons-nous pour sécuriser notre État? Prenons la seule boucle du Niger, de Mopti à Gao. Vous voyez, le barrage naturel, c'est le fleuve Niger. De là, en allant vers la frontière du Burkina. Mais c'est une zone d'insécurité totale. On n'est pas au-delà du fleuve Niger, vers le nord et le nord-est. Non, on est dans le delta central. Mais c'est une zone d'insécurité que l'État peut normalement sécuriser le plus facilement du monde. Mais aucune disposition n'est prise. Les bus sont attaqués tous les jours que Dieu fait sur le tronçon Sévaré-Gao. Tous les jours que Dieu fait. On dépouille les gens et on viole les femmes. Et aucune disposition n'est prise pour des poursuites ou même pour sécuriser ces convois civils. J'ai dit, c'est parce que l'État ne cherche même pas à jouer son rôle. L'État quémande la présence d'un gouverneur à Kidal. L'État envoie, et on dit visite du gouverneur de Kidal à Kidal. Mais c'est une ironie, c'est ironique. Alors, et finalement on dit, bon, pour donner l'impression qu'on a un gouverneur, il va quand même, retour du gouverneur à Kidal, il y va seul alors que sa sécurité n'est pas assurée. Il n'y a pas d'État malien à Kidal. Le gouverneur seul ne peut pas être l'État du Mali à Kidal. Ça, il faut que ce soit clair. Il faut que les forces des armées de sécurité maliennes précèdent le gouverneur, sécurisent les zones, l'administration au complet y arrive, les populations auront confiance, les déplacés, les réfugiés aussi rejoindront. Mais tant qu'on est dans ce jeu de cache-cache, on ne s'en sortira pas. La communauté internationale, MINUSMA, Barkhane ont leur base là-bas, mais ils regardent de loin. Ils sont là-bas pourquoi? Et finalement, aujourd'hui, nous sommes en train de faire la paix avec qui? Est-ce avec les groupes terroristes? Est-ce avec les groupes rebelles qui ont signé un accord de paix qui, ipso facto, est un accord de cessez-le-feu? Et si on se met à signer encore des ententes, des accords, ainsi de suite, on n'en sortira pas. À chaque fois que l'envie leur chante, ils prennent les armes, ils tirent des coups et c'est la case départ encore. Donc, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités, que l'État malien interpelle la communauté internationale.
Vous l'avez dit au début que cette journée, c'est une occasion pour interpeller la communauté internationale. Et il y a Idriss Déby qui a lui aussi demandé à la communauté internationale d'assumer sa responsabilité puisque c'est elle qui a créé ces conditions que vit le Sahel.
Véritablement, puisque en fait, la communauté internationale est simplement une couverture pour les groupes rebelles. Parce qu'ils sont là-bas en paix, peuvent venir et envahir jusqu'à Menaka, de Kidal jusqu'à Menaka, jusqu'à Tangara, jusqu'à Anefif, sans coup férir. Ils étaient à deux doigts d'entrer à Gao il y a deux mois. À deux doigts d'entrer à Gao, ils étaient à 25 km à Djebok. Donc ça veut dire que, et ça veut dire que c'est une violation totale de l'accord pour la paix. Cette violation totale. Et ni l'État malien ne s'en émeut. Heureusement que le ministre de la Défense actuel commence à mettre les pieds dans les plats. Mais la communauté internationale devrait dire stop, hola. Il faut qu'on avance là. Mais c'est tout comme on a l'impression qu'on veut entretenir cette crise. Okay, et jouer sur le long terme plutôt que de dire mais 15 000 hommes au titre de la communauté internationale présente sur les territoires maliens, du jour au lendemain, ça devrait finir. Ils sont combien ces groupes rebelles qui nous empêchent d'avancer?
Vous dites que la communauté internationale devrait dire stop. Et si elle ne dit pas stop, est-ce que l'État malien ne devrait pas pouvoir demander à la communauté internationale
de partir? C'est l'État malien d'ailleurs d'abord
de partir.
Qui devrait politiquement, diplomatiquement mettre mal à l'aise toute cette communauté internationale, en leur disant
c'est nous que vous avons fait appel. Aidez-nous à stabiliser notre pays. MINUSMA, ça signifie stabiliser le pays. Mais la MINUSMA aujourd'hui est dans les services sociaux de base, en train de chercher à se faire accepter par les populations, plutôt que de traiter la crise là, et, du point de vue sécuritaire. Plutôt que de chercher à rapidement, on a fait combien d'années que l'accord est signé, tous les camps de cantonnement devraient finir depuis fort longtemps. On devrait recenser les hommes armés et leurs armements, les cantonner, les désarmer et les reverser dans les corps de métiers de l'État ou dans la fonction publique ou autre, ou donner des financements pour ceux qui sont prêts à aller dans des activités génératrices de revenus. Mais tout cela n'est pas en train d'être fait. On entretient. La crise, en fait, nourrit les hommes qui gèrent la crise. En fait, on est dans cette posture.
Est-ce que la population elle-même également veut le départ de cette MINUSMA quand on voit que beaucoup de jeunes aujourd'hui rêvent d'aller travailler à la MINUSMA pour gagner beaucoup d'argent?
Ben, c'est cela. La MINUSMA est en train de se faire accepter par la population, de se rendre nécessaire dans les rôles que l'État devrait normalement jouer. La MINUSMA se confine dans cela. Moi, je suis des régions du Nord, mais la MINUSMA fait des forages, la MINUSMA assiste les agriculteurs, ceux qui font les jardinages, ceux qui font de l'agriculture, donne des aides alimentaires ou autres. La MINUSMA est dans ce rôle. Mais donc, c'est un État. Donc, les populations qui étaient sévrées de tous ces services depuis fort longtemps voient en cela une manne et ne voudraient même pas s'émouvoir contre cela. Ok, donc il faudrait que ça prenne fin.
D'accord, Tunkara, à ce stade, alors, est-ce qu'on peut dire que la MINUSMA sort de son rôle?
Naturellement, parce que là, il est quand même important que ces services sociaux de base soient assurés. Mais si allier les assurer, ce n'est pas la MINUSMA. Elle peut venir en appointe, mais pas en tant qu'actrice clé. Je crois que les Maliens doivent comprendre une chose. Les forces internationales africaines qui sont avec nous aujourd'hui, elles ne sont pas là pour la charité en réalité. Vous n'allez pas me dire que la France aime les 100 Maliens plus que les 100 Palestiniens, que la France aime les 100 Maliens plus que les 100 Syriens. Et je crois qu'il y a des enjeux financiers extrêmement importants. Lesquels enjeux ont pour nom l'assistance à un pays qui serait au bord du gouffre. Mais je crois que ce ne sont que des mots qui permettent à ces forces internationales et africaines de légitimer leur présence. C'est extrêmement important que les Maliens, en commençant par l'État central, qu'on se ressaisisse en fait. Il y a une porosité mentale dans ce pays. Et les gens ont du mal à creuser à fond. Et comment vous pouvez imaginer une force qui est censée stopper la montée de l'extrémisme violent, une force qui est censée justement aider le pays à recouvrer l'ensemble de son territoire, une force qui est censée justement aider le pays à faire en sorte que les groupes armés soient désarmés. Jusqu'ici, on a quand même pas moins de 4 ans que ces différentes forces rythment le quotidien des Maliens, mais jusqu'ici, s'il y a lieu d'établir un bilan en termes de retour à une paix durable, en termes de cessation de violence, si le bilan est à établir, il est plus que catastrophique. Rien n'a été fait dans ce sens. Et à tel enseigne que, Maïga l'a bien mis en évidence, ces différentes forces sont même substituées à l'État. Et elles rendent même le retour de l'État dans certaines localités très hypothéquées, notamment les régions nord, même les centres également, parce que les services qui sont censés être assurés par l'État, ce sont ces différentes forces aujourd'hui qui assurent qui permettent aux différentes populations d'accéder à ces services sociaux de base. Donc je crois qu'il est extrêmement important qu'on sorte de ce sentiment noétique. Oui, Mali, le Mali est un grand pays, le Mali, les Soumyata, je crois que la nostalgie, l'heure n'est plus à la nostalgie. On a en face du réel. Lequel réel a pour nom le façonnement des nouveaux Maliens qui aura comme préoccupation centrale l'État-nation et non ses intérêts personnels. Ces nouveaux Maliens aura pour référent fondamental l'État-nation et non pour son ethnie. Ces nouveaux Maliens aura pour référent religieux son islam malien. Je crois qu'il est extrêmement important qu'il y ait ce travail de refondation. Si
alors, s'il y a tant de problèmes concernant cette communauté internationale, est-ce qu'on a vu des pays qui ont demandé le départ de cette communauté internationale? Est-ce que le Mali, aujourd'hui, peut faire autant?
Le Mali ne peut pas le faire. Pour la simple raison que le Mali se trouve dans une situation très chaotique, car il a en face de lui une armée dont sa hiérarchie est presque corrompue. Et il est en face de lui une armée pour qui connaît les différentes procédures de recrutement sont émaillées de corruption, de népotisme, de clientélisme. Donc, en gros, la fragilité de l'État, les degrés de la corruption de ses agents, et dans le même temps, le déni de l'évident, le fait de reconnaître que dans nos différentes localités, la pyramide sociale, elle est malade aujourd'hui, elle est à refonder. Et tous ces phénomènes font qu'aujourd'hui, demander le retour ou le départ de ces forces internationales et africaines, à la limite, c'est pour dire Bismillah, Yadagali à Koulouba, c'est dire à tous ces groupes extrémistes violents de prendre Kiji à Koulouba. Donc c'est pour vous dire que en dépit de tous ces jeux non clairs dont la communauté internationale fait l'objet, nous sommes aussi dans une situation aujourd'hui qui ne nous permet aucunement de nous prendre en charge par le simple fait que nous-mêmes nous méconnaissons qui sommes-nous, nous ne savons même pas pourquoi nous avons fait appel à ces différentes forces, nous n'avons aucune lisibilité. C'est des actions conduites par ces différentes forces.
D'accord, vous l'avez dit, un responsable de la CMA estime qu'il y a trois acteurs, la France, Yad Agali et Amadou Koufa. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut négocier avec ces deux hommes, Yad Agali et Amadou Koufa?
Moi, je fais partie de ceux-là qui disent qu'il est extrêmement important de négocier avec des acteurs clés. En les mettant à la touche, nous allons continuer à légitimer la présence de forces étrangères sur le territoire. Il est extrêmement important. Comment vous pouvez apporter des solutions à des populations, étant donné que ces mêmes populations sont à la touche? Les vrais acteurs aujourd'hui, en parlant de la crise au nord et au centre du Mali, sont la Katiba de Yad Agali et celle de Hamadoun Koufa. On ne peut pas les exclure. Certes, je reconnais des dégâts ont été perpétrés par ces deux acteurs. Toutes sortes de violences ont été, les populations l'ont subi. Ça, je le reconnais. Mais qu'à cela ne tienne, il faut être franc entre nous, Maliens. On ne peut pas continuer à nier de dialoguer avec ces deux acteurs, étant donné que l'armée se trouve dans une situation qui ne lui permet pas justement de se légitimer déjà vis-à-vis de la population, mais dans le même temps de traquer ces extrémistes violents. Or, cette force étrangère qui est censée aider le pouvoir central à les traquer, elle ne joue pas aussi son rôle de façon claire. Donc il est quand même extrêmement important, s'il y a une voie pas trop coûteuse, ce serait celle du dialogue avec ces acteurs.
D'accord. Sbeiti, vu toute cette situation, est-ce qu'aujourd'hui l'État malien peut assumer sa responsabilité pour pousser la communauté internationale à agir? Quand on voit M. Tunkara parler du degré de corruption jusqu'à ce que les chefs d'État du G5 Sahel sont même contraints de montrer qu'ils peuvent bien gérer l'argent qui leur sera donné pour l'opérationnalisation de la force G5 Sahel.
Merci surtout pour mes prédécesseurs qui ont tous montré du doigt la faiblesse de l'État, sinon la fuite de responsabilité de l'État. Nous sommes de ceux qui pensent que l'État du Mali, en tout cas le politique du Mali aujourd'hui, est totalement discrédité et dans une position où il est incapable de trouver une solution au problème des Maliens. Et je pense que la mobilisation d'il y a quelques semaines l'a prouvé à suffisance que l'État n'a rien à proposer pour ce pays-là, sauf qu'il est là à l'écoute, n'est-ce pas, de la France, à l'écoute de cette même communauté internationale qui lui impose une façon de faire. Et ça s'est vu, ça s'est avéré le long du processus, depuis que ce processus-là a commencé, depuis que le processus nous a amenés à Ouagadougou, ensuite en Algérie, on a compris que notre État n'existe pas, il est à la solde, il est, je dirais, aux ordres, n'est-ce pas, d'autres forces. Et ça s'est confirmé le long du processus. Il est arrivé même un moment, on se rappelle, où le président de la République avait donné la latitude à l'Algérie vraiment de décider et de faire ce qu'elle veut faire. Mais cette question-là, on se rappelle de toutes ces choses-là. Bref, c'est pour vous dire que
Et cette même Algérie qui dit que sa constitution ne lui permet pas de sortir pour aller faire la guerre ailleurs, mais elle lui permet quand même de sortir pour aller régler, gérer des crises dans d'autres pays.
Écoutez, moi ce que je veux dire, c'est que je suis quelque part dans le constat. Et le constat, il est tel que le politique, au-delà du politique, l'État du Mali aujourd'hui, l'État, en tout cas, avec à sa tête les politiques que nous connaissons, les politiciens que nous connaissons, est discrédité. Pour la simple raison qu'il est un acteur principal du processus de déliquescence qui nous a conduit à la crise.
D'accord. Alors, face à cette situation, il y a la plateforme Anté-Abana qui demande la relecture de cet accord d'Alger. Pensez-vous que c'est ce qu'il faudrait faire?
La solution passe par là. La solution passe par là. Aucune communauté internationale, aucun pouvoir discrédité, aucun groupe armé ne peut et n'a le droit d'imposer une conduite, n'est-ce pas, à un peuple. C'est le peuple qui doit être en avant, n'est-ce pas, dans le règlement de cette question. Et le peuple n'a jamais été sollicité, malheureusement. Nous l'avons dit en son temps et nous continuons de constater que la communauté internationale fait fi de ce que le peuple du Mali veut. N'est-ce pas? On prête une attention à la plateforme, on prête une attention à la CEMA, on prête une attention à l'État, au pouvoir du Mali. Malheureusement, pour nous, société civile, pour nous, majorité des Maliens, tous ces trois acteurs-là ne sont pas crédibles. Ils l'ont montré à suffisance. Nous leur avons laissé le temps depuis la signature de l'accord pour amener un semblant de paix dans ce pays-là. Malheureusement, le constat, il est là. Le nombre de morts s'est multiplié par 10 souvent. L'occupation du territoire va crescendo. Les incompréhensions vont. L'ensemble des Maliens sont là, ils assistent, ils attendent que ces acteurs-là nous rassurent. Malheureusement, ils ne nous rassurent pas. Ils ne font que des déclarations d'intention. Et au-delà de ces déclarations-là, vous verrez dans les trois jours, des attaques vont reprendre. Des tueries entre ces groupes-là vont. Et on amuse la galerie quelque part. Donc, c'est pour dire que c'est au peuple malien, c'est à cette plateforme-là de se retrouver et de tracer la voie, de dire à la communauté internationale, de dire à l'État du Mali, de dire à ces groupes armés que le Mali appartient d'abord aux Maliens.
D'accord, M. Maïga, réviser l'accord d'Alger, est-ce que c'est toujours possible?
Réviser l'accord d'Alger, c'est possible, puisque l'accord d'Alger lui-même prévoit ce fait, en fait, mais qui a été escamoté. En fait, il y a une tare congénitale que traîne cet accord, okay, dès le début. C'est que, initialement, les populations n'ont pas été impliquées. Okay. Il y a des représentants déclarés de ces populations qui sont allés parler au nom de ces populations et nous ont amené cela. Maintenant, l'accord prévoit que dans les 6 premiers mois de sa mise en œuvre, une conférence d'entente nationale qui réunit toutes les forces vives maliennes, c'est dedans.
Mais de Kaya à Taoudeni,
okay, de Koulikoro à Kidal, devrait se réunir autour et pour comprendre les causes profondes de la crise et rechercher les voies de sortie ensemble. Donc, ça veut dire que l'accord ne contient pas tout. Donc, ce qui devrait être déterminé dans la compréhension commune de toute la population malienne devrait l'être dans cette conférence nationale et on prend un nouveau chemin ensemble. C'est ce qui n'a pas été fait jusque-là. Vous avez vu le semblant de conférence d'entente nationale qui a été organisée, mais ça s'est terminé en queue de poisson et finalement, on n'en parle même plus. Même les résolutions sorties de cette crise-là, on n'en parle même plus. Donc ça veut dire que ça fait un flop. C'est un flop total. Alors, on devrait revenir à la case, organiser au moins une conférence nationale, dire que la crise est profonde, elle engage l'avenir du Mali. Donc, tous les Maliens doivent être conviés. Qu'on fasse une grande conférence, pas sur 3 jours ou 4, mais sur au moins 2 semaines ou plus, 1 mois, avec des retransmissions à la télé. Parce que on n'est pas sorti de la crise. Donc pourquoi jouer cette comédie faire semblant comme si notre État existe, le gouvernement tient ses conseils des ministres, l'Assemblée se réunit, on délibère par-ci, là, mais non, et on n'a pas d'État, il faut que ça soit clair. Donc cette conférence d'entente nationale devrait être l'occasion de faire cette catharsis-là, okay, pour que tout le peuple malien se rende compte de la situation, de la gravité et de la profondeur de la crise, et maintenant que chacun se met dans son rôle et dit « Ok, on va vers cette voie ». Et ça serait retransmis à la télé, comme je l'ai dit, à la radio, surtout les FM. Heureusement que le Mali est suffisamment couvert aujourd'hui, que chacun entende ce qui s'est dit, que chacun comprenne cela. Si ça avait été fait, les levées de bouclier contre le projet de révision de constitution n'aura pas eu lieu, puisque ça aura été convenu qu'on ira vers une révision constitutionnelle pour telle nécessité. Voilà, pour telle raison, on doit aller vers cette révision. Mais ça n'a pas été fait, donc on voit d'atermoiement en atermoiement, et c'est toujours un retour à la case départ. D'accord. Mais j'ai de l'espoir en se disant qu'aujourd'hui, et les groupes armés, et l'État du Mali, et maintenant la communauté internationale, chacun a montré ses limites. La communauté internationale aujourd'hui, Serval, Barkhane, MINUSMA ont échoué. N'ont pas atteint leur objectif pour lesquels on les a appelés depuis 4 ans maintenant.
D'accord, il nous reste plus que 3 minutes. Chaque invité, 1 minute pour parler de la solution. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Mali, le 22 septembre. Mais dans la ville, on a l'impression que tout est calme. Il n'y a pas une célébration comme il le faut qu'on voit. Alors, en restant toujours avec vous, M. Maïga, quelle peut être la solution?
Je pense que la solution, je viens de l'annoncer, c'est une grande conférence pour s'entendre sur l'essentiel et avancer. En termes d'indépendance, le 22 septembre, je souhaite bonne fête à tous, à tous les Maliens et à toutes les Maliennes, mais simplement, je pense que les pères de l'indépendance se retournent dans leur tombe aujourd'hui parce que, en termes d'indépendance, il n'y en a pas encore au Mali. Nous sommes aujourd'hui sous tutelle. Alors, il faut qu'on puisse se reprendre en main et avancer en tant qu'État souverain et s'affirmer comme tel. Tant que l'État ne s'affirme pas comme État souverain dans le cercle des nations, nous resterons toujours à cette traîne. Okay? Et donc, nous estimons que le peuple malien doit prendre les choses en main, okay? Et que le gouvernement sache que le salut du Mali se trouve entre les peuples. Donc c'est de revenir vers le peuple à
D'accord.
travers une conférence
Monsieur Tunkara,
nationale.
Aujourd'hui, quelle peut être la solution pour une paix au Mali?
Très rapidement, il faut une réforme de l'État à l'état par des acteurs consciencieux et dignes d'incarner cet État-nation. Dans le même temps, il faut aussi rapidement que les particularités culturelles et ethniques soient gommées par l'institutionnel. Vous ne pouvez pas avoir une constitution laquelle constitution soit bafouillée par des partis culturels. Et il faut rapidement aussi que les citoyens maliens, justement, prennent conscience, qu'ils comprennent que les forces qui sont là à nous aider aujourd'hui ne sont pas là pour la charité. C'est extrêmement important que dans le même temps, partout, tout le monde doit évoluer sous la coupole de l'État et non l'inverse.
D'accord. Sbeïté Akakadou, en tant que société civile, qu'allez-vous faire pour qu'on puisse avoir une paix au Mali?
Pour avoir la paix au Mali, il faut d'abord que toutes ces parties-là, qu'il s'agisse de la communauté internationale, l'État du Mali et les groupes armés, qui reconnaissent que la paix ne se construit pas en écartant certains acteurs, c'est-à-dire les populations majoritaires du Mali. Et reconnaître que le problème a été mal posé et qu'il n'y a pas de problème entre le nord du Mali et le sud du Mali. Il y a un problème de mal-gouvernance généralisé à travers le pays. Et que c'est à ce problème de mal-gouvernance qu'il faut faire face et non d'essayer de réconcilier des gens qui ont pris des groupes armés de façon illégitime, barbariser des populations et s'asseoir avec eux, faire d'eux des représentants des autres communautés d'un certain espace géographique, faire d'eux les seuls représentants de cet espace.
Alors, vous, en tant que société civile, qu'allez-vous faire pour que vous soyez impliqué?
Tout le monde est en train de dire, c'est ce que tout le monde a toujours dit, c'est-à-dire faire réellement une rencontre nationale sincère dans laquelle tous les Maliens, ce ne sont pas seulement les nordistes, tous les Maliens soient suffisamment représentés pour qu'on règle la question du Mali. Parce que dès l'instant que vous voulez privilégier des zones par rapport à d'autres, mais soit créer une armée où certains représentants seront plus nombreux que d'autres, déjà le Mali est foutu. Qu'on revienne, n'est-ce pas, à la devise nationale, un peuple, un but, une voix. Tout en reconnaissant les spécificités et certains droits à certains groupes, n'est-ce pas, qui sont marginalisés ou en tout cas dans des situations difficiles.
D'accord. Donc tout le monde est d'accord. Il faut une conférence d'entente nationale qui implique toutes les couches. Merci. Merci, Monsieur Akado. On aura d'autres occasions pour parler de ce processus de paix. Nos invités, Sbeite Akado de la société civile, Ali Tunkara, sociologue, et Ibrahima Ikassa Maïga, juriste. Je suis Mohamedou Touré, débat réalisé par Ibrahima Aran Diallo, à la technique Seydoumbo, régie vidéo assurée par Peting Diara. Bonne fête d'indépendance à tous les Maliens et à demain pour un prochain numéro.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Haloud Moundi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.